Le journal, présenté par Bruno Cadenne.
Bonjour à tous. Bras de fer électoral entre Madrid et Barcelone. C'est aujourd'hui que le gouvernement autonome catalan organise son référendum sur l'indépendance de la province. Un référendum illégal pour Madrid, mais dont on suivra attentivement la participation. Le Donbass peut être sur le point de basculer à nouveau dans la guerre. Les bombardements ont été très violents la nuit dernière à Donetsk. Les combats se poursuivent encore ce matin, sur fond de soupçons de Kiev sur l'arrivée de convois blindés venus de Russie. C'est le jour du souvenir aujourd'hui au Royaume-Uni avec son symbole, le coquelicot rouge, pour rendre hommage à tous les soldats britanniques morts à la guerre. Des commémorations également sur fond de vagues nationalistes anglaises plus que britanniques. Le virus Ebola en recul, mais pas encore vaincu en Afrique de l'Ouest, avec aussi cette conséquence de l'épidémie sur la santé fragile des économies de ces pays. On entendra l'analyse d'un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis en fin d'édition, comme chaque dimanche, on retrouve Nabila Hamel pour son tour du monde de l'actualité internationale, la face cachée du globe. Certes, ce référendum n'a aucune valeur légale, mais depuis ce matin 9h, les Catalans votent sur leur indépendance. Comme en Écosse, le vote est ouvert à tous les résidents, y compris les étrangers, à partir de 16 ans. Mais contrairement à l'Écosse, le référendum n'est pas accepté par le pouvoir central. Du coup, seuls les Catalans favorables à l'indépendance devraient aller voter. À Barcelone, le reportage d'Annabelle Grelier.
Des stands d'information installés dans tout le centre-ville, un compte à rebours géant sur la façade de la Generalitat, l'Assemblée catalane, et même des concerts de casseroles, tous les moyens sont bons pour appeler la population à aller voter. C'est notre liberté d'expression, assure Paul, un jeune Barcelonais convaincu que la Catalogne doit être indépendante.
Nous voulons voter et nous irons voter en liberté. Ça nous est bien égal ce que dit le gouvernement espagnol et on fiche aussi de ce que disent les tribunaux. Voter, ça ne veut pas dire qu'après tout sera parfait, tout sera gratuit. Non, voter, cela veut dire que l'on pourra lutter et que l'on pourra construire et décider de notre avenir dans notre pays.
Bien moins organisés, les opposants à l'indépendance ont de leur côté fait campagne contre la participation et demandé à Madrid de bloquer ce scrutin. Mira est adhérente à la société civile catalane, une association qui milite pour le maintien de la Catalogne dans l'Espagne.
Nous n'irons pas voter et nous appelons le reste de la société à ne pas collaborer, à ne pas participer à cette farce. C'est un processus complètement illégal qui ne réunit aucune garantie démocratique. Ce sont juste les indépendantistes qui vendent leur programme, leur idée sur l'indépendance.
Malgré les menaces de Madrid, le gouvernement catalan a déjà annoncé qu'il se chargerait du dépouillement des bulletins et de l'annonce des résultats.
17 personnes toujours en garde à vue sur les 21 manifestants interpellés hier à Toulouse en marge du rassemblement interdit en hommage à Rémi Fraisse. 500 personnes avaient tenté d'envahir le centre-ville de Toulouse, mais s'étaient heurtées à un très important service d'ordre. Deux policiers ont été blessés dans les échauffourées. Plus de 800 délégués communistes réunis ce week-end à Montreuil, près de Paris. Le but du PCF est d'élaborer une alternative à gauche au gouvernement de Manuel Valls. Pour cela, Pierre Laurent, le secrétaire général du Parti communiste, a multiplié les appels aux frondeurs et aux écologistes pour rejoindre les communistes en vue des élections départementales de 2015. La nuit a été très violente sur Donetsk, dans la partie du Donbass contrôlée par les séparatistes pro-russes. Les combats ont été intenses, à la fois dans la zone de l'aéroport Sergueï Prokofiev, encore tenue par l'armée ukrainienne, mais également près de la gare ferroviaire en direction du centre-ville. Les combats se poursuivent ce matin, alors que de nombreux renforts, dont des blindés, ont été vus dans les zones rebelles. À Kiev, la correspondance de Caroline Gojar-Larsson.
Cette nuit à Donetsk, épicentre des affrontements, les combats pour l'instant concentrés autour de l'aéroport se sont rapprochés du centre-ville, notamment de la gare. Des tirs ont commencé à s'intensifier vers 2h du matin et se sont poursuivis avec la même force durant plusieurs heures. Dans la matinée, les autorités municipales ont commencé à dresser le bilan de cette nuit particulièrement meurtrière. Plusieurs maisons à Donetsk ont été détruites par la chute d'obus. Il y aurait des victimes côté civil. Une intense activité militaire qui intervient au lendemain d'une supposée arrivée de renforts matériels et humains en provenance de Russie. Plus d'une quarantaine de véhicules militaires ont été vus dans la zone, parmi eux 19 camions de la marque russe Kamaz, sans plaque d'immatriculation, transportaient des canons et du personnel en uniforme vert foncé sans insigne. Les séparatistes reconnaissent que la colonne de blindés, également remarquée par les observateurs de l'OSCE, leur appartient, rapporte ce midi l'agence de presse ukrainienne Unian. Selon la même source, dans la région de Lugansk, à la frontière avec la Russie, deux gardes-frontières ukrainiens ont par ailleurs été touchés par la chute d'obus. De son côté, Kiev avait dénoncé une incursion militaire russe au début du week-end. Kiev qui célèbre aujourd'hui la langue et la littérature ukrainienne dans un pays plus que jamais divisé, mais dans lequel, a déclaré le président Porochenko, la langue ukrainienne est et restera la seule langue officielle.
Les États-Unis ont détruit un convoi de 10 véhicules censés appartenir au groupe État islamique près de Mossoul en Syrie. Des télévisions arabes ont affirmé hier que le calife autoproclamé de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, pourrait avoir été blessé ou même tué dans ce bombardement. Mais aujourd'hui, les États-Unis déclarent ne pas être en mesure de confirmer la présence du dirigeant terroriste dans le convoi visé par ces frappes. Par ailleurs, l'armée irakienne affirme avoir atteint pour la première fois depuis le début de sa contre-offensive le centre-ville de Baïji, une ville tenu par les djihadistes de l'État islamique. Vous les avez certainement vus sur des images, ces coquelicots rouges, les poppies au revers de la veste de la plupart des Britanniques en ce mois de novembre. Au départ, il s'agissait de rendre hommage aux Tommies tombés lors de la Première Guerre mondiale. Désormais, c'est pour célébrer tous les soldats morts dans les guerres menées par l'armée britannique. Et aujourd'hui, c'est le temps fort de ces commémorations, le jour du souvenir, avec une vague d'enthousiasme dans tout le royaume pour cet événement et peut-être aussi une vague de nationalisme à Londres, Franck Madmon.
L'installation est fascinante, elle fait le bonheur des photographes depuis cet été. Des centaines de milliers de coquelicots en céramique dans les douves de la Tour de Londres, 888 246 précisément, un pour chaque soldat du Commonwealth tué lors de la Grande Guerre. Cette mer écarlate a attiré près de 4 millions de visiteurs. Pendant les vacances, il a même fallu fermer la station de métro la plus proche pour des raisons de sécurité. Chaque année, il est de tradition de porter un poppy, un coquelicot en papier, à la boutonnière en hommage aux forces armées. L'œuvre d'art de la Tour de Londres doit être démontée le 12 novembre, au lendemain de la commémoration de l'armistice. Les fleurs ont été vendues au bénéfice d'associations d'anciens combattants. Le maire de Londres, Boris Johnson, et même David Cameron lui-même ont exprimé le souhait de prolonger l'installation au succès inattendu. Ils ont obtenu qu'une partie de l'œuvre reste en place jusqu'à la fin du mois. Mais les poppies de la Tour de Londres ont aussi leurs détracteurs. Un critique d'art du Guardian regrette qu'ils ne rendent hommage qu'aux victimes britanniques. Il reproche aussi à cette mer rouge d'embellir les horreurs de la guerre.
5000 morts et 13000 personnes infectées. S'il fait moins la une de l'actualité, le virus Ebola est toujours une réalité mortelle en Afrique de l'Ouest. Malgré une amélioration de la situation et les promesses de vaccins pour le premier semestre 2015, Médecins sans frontières confirme d'ailleurs un recul de l'épidémie au Libéria, le pays le plus touché. Mais reste également l'impact financier d'Ebola sur des économies fragiles. Selon un rapport de la Banque mondiale paru début octobre, les pertes liées à Ebola pourraient s'élever à près de 33 milliards de dollars pour les deux années à venir. Tariq Yassarevitch, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, interrogé par Alison Sargent.
L'impact économique est très très important dans ces pays. Moi j'étais au Sierra Leone il y a quelques semaines. On peut voir que les grands travaux d'infrastructure se sont arrêtés parce que les compagnies étrangères se sont retirées. On voit aussi qu'il y a une diminution du nombre de vols des compagnies aériennes vers ces pays, ce qui forcément diminue l'activité économique. Donc il faut absolument que tout le monde fasse un effort pour ne pas quitter ces pays, pour ne pas les isoler, parce qu'en isolant ces pays, on fait beaucoup plus de mal que de bien. Et la meilleure manière d'arrêter la propagation internationale du virus, c'est effectivement d'aller dans tous ces pays-là et essayer donc de maîtriser le virus là-bas. On a commencé la première phase des essais avec les deux vaccins les plus prometteurs aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Mali et à partir de cette semaine en Suisse aussi. Et après, on pense pouvoir faire deuxième phase de ces essais au mois de décembre et de janvier. Et si donc les deux vaccins se montrent tout d'abord sûrs et par la suite efficaces, on pourra continuer donc avec la troisième phase dans les pays affectés et donc pouvoir à la limite protéger notamment les travailleurs de santé qui sont vraiment le groupe le plus vulnérable.
Comme tous les dimanches dans ce journal, nous faisons avec Nabila Hamel le tour des informations internationales un peu passées inaperçues cette semaine. C'est la face cachée du globe. Bonjour Nabila.
Bonjour. Si les exportations allemandes vers la Russie ont baissé pour cause de sanctions décrétées par l'Union européenne, les exportations de Berlin vers l'Iran ont bondi, elles, de 33% au premier semestre 2014. L'accord provisoire de novembre 2013 sur l'allègement des sanctions contre Téhéran semble avoir agi comme un levier, déclare la Fédération allemande du commerce extérieur, qui relève une demande iranienne de machines-outils, de véhicules et de produits chimiques. La Colombie s'impose comme la troisième économie d'Amérique latine avec une croissance de 4,3% et est devenue du coup un des pays de la région les plus accueillants pour les affaires. Ce constat est fait par la Banque mondiale. 30 pays ont investi dans 227 projets et cela grâce notamment à l'amélioration de la réglementation financière. Cap sur l'Espagne à présent, non pas pour parler de l'actualité catalane cette fois, mais d'un petit phénomène politique qui a lui aussi de quoi inquiéter et le parti au pouvoir, le Parti populaire et le Parti socialiste. Un sondage vient en effet de révéler l'ascension fulgurante du parti Podemos, un parti de gauche né il y a moins d'un an dans la veine du mouvement des indignés. Mathieu de Taillac, bonjour.
Bonjour Nabila.
Quel est le poids réel de ce nouveau parti aujourd'hui et est-ce que l'on doit son essor à la crise économique et à la corruption ?
Pour le moment, en élu, c'est 5 eurodéputés, c'est ce qu'il a obtenu lors des élections européennes de mai dernier, les premières élections auxquelles il s'est présenté. Et le poids de Podemos, c'est surtout celui que lui promettent les sondages, entre 22 et 27% selon les dernières enquêtes d'opinion. Ça veut dire de toute façon une place parmi les trois premiers partis, la première place même selon le sondage d'El País. Podemos, qui a tout juste 8 mois d'existence, fait jeu égal avec les deux grandes formations qui s'alternent au pouvoir depuis 30 ans en Espagne, le Parti Socialiste, le PSOE, et le Parti Populaire, le PP de droite. Quant à votre deuxième question, oui, deux fois oui, Podemos est dopé par la crise économique et surtout par la corruption. Ses militants, ses dirigeants ne le renient pas. Certains disent même avoir peu d'idées nouvelles sur le programme, mais vouloir simplement mettre dehors les dirigeants actuels. C'est ce qu'ils appellent la casta, la caste qui, selon eux, se coopte et se protège à la tête de l'État, des grandes entreprises. Ces deux grands partis, qui, c'est une réalité, enchaînent les scandales de corruption. Dernière en date, il y a deux semaines, l'arrestation de 51 hommes politiques, pas moins, pour des pots de vin immobiliers, une affaire d'enrichissement personnel.
Alors, déçus par les deux partis traditionnels, mais investis tout de même dans la politique, puisqu'ils ont renforcé les rangs de Podemos. Est-ce que c'est un parti essentiellement formé par des jeunes? Qui adhèrent en fait à ce parti?
Parmi les dirigeants, ce sont surtout des trentenaires. Il y a d'abord Pablo Iglesias, celui que tous les Espagnols connaissent grâce à la télévision. C'est le chef de file incontesté. Il a 36 ans. Et c'est vrai aussi que la courbe des votes Podemos est presque parallèle à celle de la jeunesse. Plus on est jeune, plus il est probable que l'on vote Podemos. Il y a des gens de tous âges, de gauche surtout, bien sûr, qui disent attendre un parti de rupture capable d'agglutiner toutes les protestations. Et puis, la grande force de Podemos, c'est qu'il parvient à bousculer un peu les clivages. Les dirigeants se gardent bien d'ailleurs de dire qu'ils sont de gauche. Ils ne veulent surtout pas effrayer les électeurs conservateurs déçus par le gouvernement Rajoy. On trouve donc un peu de tout, un peu finalement comme dans les deux grands partis avec qui il fait désormais jeu égal. Et c'est cela qui effraie le PP et le PSOE.
Merci à vous, Mathieu de Taillac.
Merci.
Direction la Birmanie à présent, deux visites à signaler dans la semaine, celle du Premier ministre chinois, puis celle du président américain Obama. Le pays, riche en ressources naturelles, attire les grands dirigeants de la planète, mais si la Birmanie est en transition démocratique depuis 3 ans, après un demi-siècle de dictature militaire, le processus commence à caler. C'est une correspondance de Rémi Favre. À Rangoon.
Elle est déçue. Aung San Suu Kyi met en garde les États-Unis. Le processus de réforme en Birmanie est au point mort depuis le début de l'année. La députée d'opposition accuse même Washington d'avoir trop soutenu le régime réformateur des anciens militaires. Entre 2011 et 2013, le pouvoir avait libéré des centaines de prisonniers politiques et libéralisé le secteur de la presse. Mais aujourd'hui, le pays prend la direction opposée. La police met à nouveau sous les verrous ceux qui manifestent sans autorisation, dont de nombreux journalistes et paysans sans terre. Un reporter a été abattu par l'armée dans des circonstances mystérieuses, probablement en octobre. Les conflits ethniques aux marges du pays se multiplient, le processus de paix piétine. Ces 3 dernières années, Aung San Suu Kyi s'est montrée fort conciliante avec le pouvoir des anciens militaires. La députée d'opposition souhaitait encourager le processus de réforme. Mais à quelques jours de la visite du Premier ministre chinois et du président américain Obama, elle est nettement plus vindicative. Elle espère que les grandes puissances feront davantage pression sur le gouvernement. Mais Washington a déjà suspendu la plupart de ses sanctions économiques sur le régime birman. Les États-Unis n'ont pas prévu d'enlever d'autres, ni d'en imposer de nouvelles. En somme, ni récompenses, ni sanctions.
À dimanche prochain.
Merci Nabil Hamel, on vous retrouve donc la semaine prochaine à la même heure. La pluie va petit à petit s'étendre à presque tout le pays cet après-midi, à l'exception de la Bretagne et du Cotentin. Des orages sont même attendus sur le pourtour méditerranéen. Le Var et les Bouches-du-Rhône ont d'ailleurs été placés en vigilance orange pour les orages et les inondations.